Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. Entre vous et moi, c'est tout de suite et c'est maintenant, comme dirait notre ami Jérôme, une heure pour parler littérature avec ceux qui la font et ceux qui l'aiment, comme j'ai coutume de le dire. Alors, un petit coup d'œil sur le sommaire de notre émission d'aujourd'hui. Dans un instant, j'aurai le plaisir de recevoir un auteur lyonnais, Bernard Paillardet, pour son premier roman intitulé « Polar Minute » et paru aux éditions Carbel. Ensuite, nous découvrirons la chronique de Nicole Skinazy-Teboul. Vous le savez, chaque semaine, Nicole nous propose une chronique sur un mot et cette semaine, elle a choisi le mot « minute » qui figure dans le titre du livre de Bernard Paillardet. Et puis, dans la deuxième partie de l'émission, je recevrai Cédric Lesec, qui est le directeur des relations extérieures et de la diffusion du Musée des Confluences de Lyon, pour la très belle collection Récits d'objets et le concours d'écriture lancé en partenariat entre le Musée des Confluences et les bibliothèques municipales de Lyon-Pardieu, du 2e et du 4e arrondissement. Et puis, je vous parlerai d'un livre de littérature jeunesse en fin d'émission, parce que parfois, le hasard fait bien les choses, et je pense que ce n'est pas vous qui me direz le contraire. Bernard Paillardet, je vous salue déjà, bonjour à vous.
Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité tout d'abord.
Avec grand plaisir, on va évoquer dans un instant votre livre, mais je le disais, le hasard fait parfois bien les choses, parce que en préparant cette émission d'aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y avait un véritable fil rouge de cette émission qui peut se résumer en un seul mot, l'apprentissage. Alors l'apprentissage à travers l'atelier d'écriture qui est au cœur de votre roman, Bernard Paillardet, également à travers la collection Récits d'objets et le concours d'écriture lancé par le Musée des Confluences et les bibliothèques municipales de Lyon, et puis avec le livre jeunesse dont je viens de parler à l'instant, qui s'intitule tout simplement « Je sais le faire », et c'est un magnifique ouvrage publié par les éditions des Arènes, dont je vous parlerai en fin d'émission. C'est un ouvrage destiné aux enfants entre 4 et 12 ans. Voilà, l'apprentissage, c'est un petit peu donc le fil rouge de cette émission. Alors, rebonjour Bernard Paillardet, c'est toujours un plaisir pour moi d'accueillir un auteur lyonnais. Oui, vous êtes lyonnais, et je vous remercie d'avoir contacté Radio Judaïque à Lyon pour nous faire découvrir votre roman « Polar Minute ». C'est ainsi que nous avons pris contact, vous avez eu la bonne idée de nous contacter et de m'envoyer votre livre. Expliquez-nous un petit peu votre démarche, si vous voulez bien.
La démarche de vous l'avoir envoyé ou la démarche d'écriture?
Non, déjà, la démarche de nous avoir contactés, parce que je dois dire que ça m'a fait très plaisir. Donc voilà, je voulais que vous expliquiez un petit peu à nos auditeurs comment vous avez eu l'idée de nous contacter.
Eh bien, nous sommes toujours, mon éditeur et moi, dans la phase, je dirais, de marketing en ce qui concerne ce bouquin.
Bien sûr.
Il fait qu'un an qu'il est sorti, donc... Nous sommes un peu à la recherche de médias qui peuvent en parler, de personnes qui sont intéressées, qui peuvent le lire, et, si possible l'apprécier. J'ai entendu votre émission un peu par hasard, puisque je fais beaucoup de zapping à la radio, lorsque je suis dans ma voiture. Et j'ai écouté votre émission, elle m'a beaucoup, beaucoup intéressé. Et le ton m'a plu. Et je me suis dit, bon, eh bien, je vais envoyer un bouquin, s'il plaît, la radio a envie d'en parler, bah c'est encore tant mieux. En tout cas, le lire, c'est déjà quelque chose. Elle appréciait ce qu'il faisait.
Tout à fait, c'est chose faite et j'étais ravie de vous proposer cet entretien. Alors, peut-être quelques mots pour vous présenter à nos auditeurs. Je crois savoir que vous avez fait carrière dans l'industrie, mais cela ne vous empêche pas de vous passionner pour l'écriture et j'imagine que c'est quelque chose qui vous passionne depuis fort longtemps, même si c'est, je le crois, votre premier roman.
Alors, c'est mon premier roman. Donc oui, j'habite dans Craponne, au pied des monts du Lyonnais. Donc ce n'est pas Lyon, mais c'est la région lyonnaise. Je suis retraité et je suis venu à l'écriture il y a 6 ou 7 ans par les ateliers d'écriture.
Ah d'accord, donc vous avez vous-même pratiqué cet exercice de l'atelier d'écriture.
Tout à fait, donc j'ai découvert il y a quelques années, auparavant on avait... jamais vraiment écrit à part des comptes rendus et des rapports techniques. Et puis, j'ai découvert qu'il y avait dans ma ville un atelier d'écriture. Donc, j'étais ému par une certaine curiosité, j'en avais entendu parler. Donc, j'ai participé à une séance d'essai. Et donc, c'était un challenge pour moi. Et finalement, ça ne s'est pas si mal passé que ça. Cette fichue page blanche, j'ai réussi à la remplir et ça m'a donné envie de continuer. Donc, j'ai continué ensuite plusieurs années. Ensuite, j'ai fait un stage pour l'écriture de nouvelles. Entre-temps, j'avais fait pas mal de lectures également. Et ça m'a vraiment passionné. Le virus était en moi. Et voilà. Et en parallèle avec ça, j'ai posé les premières pierres de Polar Minute. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir continuer ensuite dans un chantier d'écriture. Là, c'est un atelier un peu plus, un niveau un peu plus élevé où on se retrouve entre auteurs avec une coach pour travailler sur des projets un peu plus ambitieux, des romans en fait.
Je dois vous dire qu'à vous lire, à lire votre roman, Polar Minute, j'ai été certaine que vous aviez fréquenté ces ateliers d'écriture parce que vous en parlez fort bien, on y reviendra dans un instant. Et on va préciser à nos auditeurs, Bernard Paillardet, que les ateliers d'écriture sont fréquentés par de très nombreux écrivains en herbe ou plus simplement par des personnes désireuses de mettre en mots leurs sentiments, leurs impressions ou encore leurs expériences. Alors, les motivations de ceux qui fréquentent ces ateliers d'écriture sont diverses. La vôtre, quelle était-elle, cette motivation profonde qui vous a poussé à vous inscrire dans ces ateliers? Parce qu'il faut faire la démarche quand même, il faut franchir le pas. Hein.
Eh bien, moi, ce qui m'a plu, bon, au départ, c'était un petit peu par curiosité, en fait. Et puis ensuite, j'ai découvert quand même, bon, la motivation profonde, sans doute, je portais en moi cette envie, mais sans le savoir vraiment, hein, sans en être conscient. Et puis ensuite, j'ai découvert les degrés de liberté dont on dispose. Lorsqu'on a une page blanche, tout est permis. On peut faire un dessin, on peut écrire, on peut écrire de la musique. On a moins de contraintes que, par exemple, là, je fais un peu de musique, quand on fait de l'improvisation, par exemple, musicale, on a des contraintes techniques de par sa virtuosité. On a beaucoup de limites quand même. Alors qu'a priori, bon, lorsqu'on écrit, évidemment, lorsqu'on écrit pour soi, hein, lorsqu'on veut devenir un grand écrivain, et c'est tout un art. Mais lorsqu'on écrit pour soi, ben, au départ, on a un stylo, une feuille. Il ne faut rien. Il n'y a pas d'ampli, il n'y a pas de guitare, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de piano, il n'y a rien. Pas de partition.
Tout est possible à partir de ce moment-là.
Ah, tous les degrés de liberté sont là. Hein. C'est à la fois ça fait peur, puis à la fois ben, on se lance, et puis bon, au départ c'est un peu n'importe quoi. Ouais, ensuite.
En fait, je crois que vous avez dit le mot, Bernard Paillardet, c'est ce sentiment de liberté extrême finalement que la personne doit ressentir devant sa page blanche. Une fois qu'elle a dépassé cette angoisse, cette appréhension dont vous parliez à l'instant, en fait il faut y aller. Quoi.
Ben, il faut y aller, puis et c'est là que les choses commencent.
Ouais,
c'est là que les personnes, certaines, envie de se raconter. Pour certaines, c'est une thérapie. Pour certaines, bon, c'est complètement de l'imagination pure. Bon, enfin, pure. Quoique, il n'y a jamais vraiment que de l'imagination pure. Bon, de la fiction, ça, c'est mon cas, où il y en a qui ont envie de parler d'histoire. Après, ça s'affine et chacun est dans ses domaines, même s'il n'en est pas conscient, rentre dans ses domaines. Il y en a, ça peut être érotique. Chacun rentre dans ses domaines profonds. Mais bon, ça nécessite de pratiquer un petit peu. Mais après, c'est plus personnel. Mais c'est vrai que on garde cette liberté, mais sans s'en rendre compte, on s'exprime suivant notre chemin, chacun notre chemin.
Et puis chacun ses domaines de prédilection. Dans votre cas, avec Polar Minute, parce qu'on va y venir à ce roman. Juste une parenthèse, c'est bien votre premier roman, hein, vous nous avez dit. Hein.
C'est mon premier roman.
Oui. Mais parce que je trouve que, enfin, c'est un avis tout à fait personnel, mais pour un premier roman, je trouve qu'il est très abouti, il est bien écrit, vous avez une plume assez alerte, assez sensible, j'ai trouvé. Alors, l'histoire de roman, c'est au départ une histoire d'amitié entre Andrew et Alvin, vous l'aurez compris, l'histoire se déroule à Londres, en Angleterre, pays que vous semblez bien connaître d'ailleurs, hein.
Ben, j'aime beaucoup l'Angleterre, hein. Je n'y vais pas aussi souvent que je le souhaiterais, mais j'aime beaucoup l'Angleterre. J'aime beaucoup l'atmosphère anglaise, l'atmosphère des pubs, des universités. Oui, il y a beaucoup de pubs. Je suggère souvent aux lecteurs de lire le bouquin avec une bière ou un whisky à la main devant une cheminée. Souvent. Mais j'aime beaucoup cette ambiance. J'aime beaucoup la langue anglaise. Je lis beaucoup de bouquins en anglais. Et ça m'a amusé de situer tout ça en Angleterre. Mais il faut se faire plaisir aussi.
Oui, bah évidemment, l'écriture, c'est une histoire de plaisir avant tout. Alors, c'est donc l'histoire entre Andrew et Alvin, l'histoire d'une amitié entre les deux hommes qui travaillent ensemble et ont un lien particulier à travers l'histoire de leurs grands-pères respectifs. Hein, ça, on le comprend dès le début du roman. Vous nous expliquez qu'il y avait un lien particulier entre les deux familles et notamment entre les deux grands-pères de ces deux jeunes hommes.
Voilà, c'est-à-dire qu'ils s'étaient connus pendant la guerre et ils sont d'origine très différente. Et c'est un peu la raison, Andrew et Alvin sont très différents, mais il y en a un qui est farfelu, qui est génial mais farfelu, l'autre qui est aussi très, très intelligent aussi, mais beaucoup plus sérieux. Et il pardonne tout à son ami, absolument tout, du fait de ce passé où les grands-pères étaient devenus amis. Et puis aussi, Andrew admire un peu Alvin, on est tous un peu comme ça, parce qu'il réalise un peu ce que lui souhaiterait faire, mais qu'il ne fait pas. Voilà, donc.
Alvin a la folie, entre guillemets, hein, une folie douce quand même, que Andrew n'a pas, parce qu'il est effectivement très sérieux. Alors, les deux amis sont très différents, vous l'avez dit, mais n'est-ce pas là une des définitions de l'amitié ? D'ailleurs, leur relation m'a fait penser à cette fameuse phrase de Montaigne à propos de la poésie, qui définissait l'amitié ainsi, parce que c'était lui, parce que c'était moi. C'est un petit peu une illustration de cette définition de l'amitié, vous ne trouvez pas ?
Oui, c'est tout à fait. C'est bien.
Cette amitié va toutefois les entraîner dans une aventure qui va vite les dépasser. Alors, je ne sais pas comment faire pour ne pas dévoiler l'intrigue à nos auditeurs, parce qu'il faut bien sûr préserver le plaisir de découvrir votre histoire, l'histoire que vous avez inventée. Mais comment pourrait-on résumer cette aventure qui va les entraîner vraiment un petit peu plus loin que là où ils pensaient aller ? Qu'en pensez-vous ?
Eh bien, bon, sans spoiler, j'ai fait une petite liste, là, une petite liste amusante. Ça apportera pas grand-chose, mais bon, on sera là. Bon. Parce que la question terrible pour les primo-romanciers qui n'ont pas l'habitude de parler de leur bouquin, là, c'est de quoi ça cause.
Ouais,
alors,
exactement.
J'ai décidé de traiter ça de façon amusante. Hein. Donc, de quoi ça parle pas ? Donc, ça ne le rend pas éligible pour les prix littéraires. Du réchauffement climatique, de MeToo, du 49.3, de LGBT, des gilets jaunes, de la PMA, des bad blocs, des trottinettes électriques et des voisins qui se gardent n'importe où dans le lotissement.
Et le coronavirus, vous l'oubliez ?
Je préfère le laisser de côté. De quoi ça cause ? L'amitié, la science, les ateliers d'écriture, l'intelligence artificielle, Londres, les start-up, les pubs anglais, la bière, le whisky, les irlandaises, les robots, l'écriture, Cambridge, la guerre, une histoire policière, une romance et des histoires dans l'histoire, des échanges épistolaires, de la poésie, des annexes. Voilà, il y a tout ça. Mais disons qu'au premier degré, on peut le lire comme une histoire humoristique sur le parcours de deux amis, une scientifique. On suit d'abord à l'école, ensuite à l'université, donc... Ensuite, leur premier boulot, où là, celui qui est fantasque fait déjà parler de lui. Ensuite, les ateliers d'écriture. Puis ensuite, bon, j'en dirai pas plus, mais bon, ça part en cacahuète, il y a des choses qui se passent. Mais il y a aussi un deuxième niveau de lecture qui est plus une satire du monde scientifique et de l'assurance, de l'arrogance de certains scientifiques, voire même politique ou même média concernant les sujets de l'intelligence artificielle, de la robotique. Donc, j'ai mis en scène certains passages qui sont humoristiques là-dessus, où on essaye de nous vendre en disant, ben voilà, ça va résoudre tous les problèmes. Donc voilà, c'est tout à fait d'actualité avec le 5G. Voilà, donc il y a l'opposition dans le roman entre deux personnages donc, qui sont donc, Alvin, lui, qui est en plein là-dedans, et puis l'animatrice de télé d'écriture, qui elle, c'est à l'ancienne, hein, qui n'utilise pas d'ordi et tout. Donc il y a l'opposition de ces deux personnages qui symbolisent un petit peu l'ancienne école et puis la nouvelle école. Mais bon, pour l'instant, on cherche à nous l'imposer pour des raisons commerciales. Et puis aussi, ça nous donne de l'espoir en disant ben, on pourra dormir dans la voiture, elle nous amènera pour revenir du pub, on n'aura pas de problème, même si on a beaucoup bu. On n'en est pas encore là. Et j'ai vu certaines. Il y a eu un colloque l'année passée donc, sur l'intelligence artificielle à Lyon, et il y a des scènes qui sont dans le bouquin. C'est un parallèle, le bouquin était fait, hein, mais c'est vraiment des scènes où des politiques. Bon, il y a une scène, je ne veux pas dévoiler, mais il y a une scène où il y a des démonstrations de robots qui tournent en cacahuètes. Et là, ça s'est réellement passé. Voilà, donc ça, c'est la deuxième lecture. Mais après, bon, c'est surtout, je souhaitais faire passer un bon moment au lecteur.
Si, alors l'intelligence artificielle, vous l'avez dit, est au cœur de cette intrigue. Le sous-titre de votre livre, Bernard Paillardet, c'est « Comment devenir sans effort un auteur reconnu et admiré ». Alors, on sent beaucoup d'humour, évidemment, dans cette interrogation, dans cette question. Mais c'est vrai que ce concept de Polar Minute est, je trouve, assez emblématique de notre société du zapping permanent, notre société où tout doit aller très vite. Et vous pointez un petit peu du doigt ce risque de déshumanisation et puis le fait que l'imagination n'a plus sa place, n'aurait plus sa place dans un tel monde, l'imagination, la créativité. Et finalement, quel intérêt de se dire écrivain après avoir rentré des données dans un ordinateur pour que l'ordinateur concocte un roman? C'est un peu ça la question que vous posez, la question sous-jacente, non?
Bien oui, ben ça pose la question de la créativité. Parce que, bon, on a le résultat. Bon, je ne veux rien dévoiler, mais on voit le résultat. Et ouais. Finalement, bon, c'est quand même assez dénué de créativité, bon, et d'humanité. Voilà, donc c'est un peu ça. Parce que ça existe. Il y a eu des tentatives au Japon. Mais d'après les personnes qui ont lu les romans, c'est quand même pas terrible. Hein, donc.
Ah, il y a eu des tentatives, effectivement. Ça, je ne sais pas. Ah ouais, d'accord.
Absolument. Mais bon, ça s'est fait. Le bouquin était fini quand j'ai appris ça. Il y en a un qui m'a dit, oh là là, Bernard, ce que tu fais, bon, c'est bien, mais bon, c'est un peu réchauffé. Lui, non, ça n'existe. Quand j'ai commencé, ça n'existait pas. Puis moi, je raconte tout ça de manière humoristique. Bien sûr. Mais il y a eu. Alors déjà, il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup d'aide à l'écriture. De façon informatisée,
pour
construire un roman avec des pour l'organisation du roman, ça aide beaucoup pour écrire, il y a des dictionnaires correcteurs, etc. Bien sûr, les aides déjà, il y a pas mal de logiciels.
Sur la forme que peut prendre le roman.
Mais les Japonais, ils vont toujours plus loin que tout le monde. Et dans ce domaine-là, et eux, ils ont vraiment créé des romans à partir d'un système informatique. Mais bon, voilà. Moi, je ne tiens pas à les lire, mais je ne les ai pas lus. Mais bon.
Franchement, ceux qui aiment vraiment la littérature, ce n'est pas tout à fait ce qu'ils recherchent. Hein. Quand on ouvre un livre, on a envie de découvrir à travers son œuvre l'auteur aussi. On a envie de se confronter à son monde, à sa créativité, à son imagination, et pas à de l'intelligence artificielle, si on peut appeler ça ainsi.
Pour moi, c'est un oxymore.
Oui.
Et d'ailleurs, bon, il faut lire le bouquin, mais bon, elle en parle, l'animatrice, à un moment donné, en disant, voilà, elle vient de dire ce que vous avez dit, un petit peu quand même. Voilà. Vous avez lu le bouquin, c'est bien.
J'ai lu, bien sûr, jusqu'à la dernière ligne, la fameuse Miss Plume. Et d'ailleurs, à la fin du livre, vous nous proposez les parutions, enfin les nouvelles écrites dans le cadre de l'atelier d'écriture de Miss Plume auquel participent les deux amis.
Ça m'a amusé beaucoup parce que je me suis dit, bon, je décris un atelier d'écriture fantasmé. Hein. Là, les personnages sont très exagérés. Bien sûr, il y a des traits de personnalité que j'ai rencontré, mais vraiment au 1/100 des personnages du roman. Et puis je me suis dit, on va pousser jusqu'au bout, je vais faire des pastiches en mettant en annexe des textes faits par ces personnages imaginaires et qui correspondent à leur personnalité. Là, je me suis amusé, c'est vraiment. Ouais, j'espère que les lecteurs se les amusent aussi.
Je dois dire que j'ai passé un moment très agréable à lire votre roman, Bernard Paillardet. C'est vrai que je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et finalement, j'ai été emportée dans cette histoire incroyable. Mais je le rappelle surtout, déjà au départ, une histoire d'amitié. Et c'est sans doute justement la marque de l'écrivain, cette patte et cette créativité, cette imagination. Je pense qu'avec l'intelligence artificielle, on n'aurait pas eu le même résultat, j'imagine.
Non, j'ai eu, pour être honnête, dans le processus d'écriture, je me suis posé des questions dans quel sens je vais, parce que moi, je suis de formation scientifique.
Oui.
À un moment donné, j'ai eu envie d'aller à fond, peut-être en moins humoristique, d'aller à fond dans le domaine de l'intelligence artificielle, des robots, etc. Et puis, je me suis dit, bon, non, c'est pas ça, Bernard, c'est pas ça qui t'intéresse. Ce qui t'intéresse aussi, c'est de faire quelque chose d'humoristique, avec des sentiments, avec des vrais gens. C'est ça qui m'intéresse.
Exactement. Et puis, ce qui est intéressant dans ce livre, Bernard Paillardet, si vous permettez, c'est que on sent que vous avez une formation scientifique, et moi qui n'ai qu'une formation littéraire, j'ai apprécié ce livre parce que précisément il y avait tout ce côté de humain de l'écrivain, avec les sentiments, avec les impressions, avec tout ce qui fait en fait le sel de la vie, si j'ose dire.
Oui, tout à fait. Et puis on s'est amusé aussi avec l'éditeur, on s'est amusé sur la couverture, parce que c'est un faux polar. Ça peut jouer des tours en salon, etc., parce qu'on peut nous classer dans les polars.
Exactement.
On a joué sur les codes, en disant, voilà, quand on regarde le bouquin, on a vraiment l'impression que c'est un polar. Et puis ensuite, quand on se penche et qu'on voit le sous-titre, on dit, oui, il y a quelque chose de bizarre. Le but, c'était d'intriguer le lecteur.
Comment devenir sans effort un auteur reconnu et admiré? Je suis certaine que de nombreux futurs lecteurs vont être attirés par ce sous-titre et entrer dans cette histoire qui est tout à fait intéressante et chaleureuse. C'est donc l'histoire de ces deux amis issus de classes sociales différentes, mais qui sont experts de technologie, ça évidemment nos auditeurs l'auront compris, et qui vont être entraînés dans cette aventure qui va vite les dépasser, mais on peut le dire qui se termine bien quand même.
Oui, bien. C'est humoristique, donc ça ne pouvait pas se terminer autrement que bien. Non, je ne voyais pas. C'est sur un ton léger, ça finit sur un ton léger.
Alors, pour terminer, Bernard Paillardet, déjà vous remercier de nous avoir accordé cet entretien pour évoquer ce livre et puis dire également que vous avez écrit un recueil de nouvelles qui sort prochainement ou qui vient de sortir.
Il est sorti, il est publié uniquement en numérique aux éditions Librairie.
Vous éditions, pardon ?
Librinova, donc c'est l'auto-édition.
Ah, oui. Édition. Et c'est Minuit Blues, le titre.
Minuit Blues, donc là, je parle un petit peu de musique, c'est un sujet qui m'intéresse aussi, mais pas que. Et puis ce qui m'intéresse aussi, c'est le thème, c'est la nostalgie dans ce recueil de nouvelles. Toutes ces nouvelles sont un petit peu nostalgiques. Et donc la musique du blues, c'est une musique mineure nostalgique, comme le fado, comme les musiques de l'Est, et ça me plaît beaucoup. Et donc j'ai choisi ce titre, c'est le titre d'une nouvelle, parce que le tempo de tous ces petits textes, c'est la nostalgie, c'est le thème principal. Voilà. Et donc, ce recueil de nouvelles, lorsque j'ai terminé Polar Minute, j'avais déjà dans l'idée un nouveau roman sur lequel je travaille. Et puis entre les deux, bon, j'ai voulu continuer en atelier, justement, un atelier, mais nouvelle cette fois-ci. Et le fruit de cet atelier, c'est ce recueil de nouvelles.
Ce recueil Minuit Blues. Donc, en attendant, nos auditeurs peuvent découvrir, s'ils le souhaitent, bien sûr, Polar Minute, ce roman publié aux éditions Carbel. Je précise que c'est une maison d'édition lyonnaise, de notre région, puisqu'elle est située à Caluire. Et donc, Polar Minute, c'est le roman de Bernard Paillardet. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous et d'avoir pris contact avec la radio pour nous présenter ce livre. On espère que vous resterez fidèle à notre antenne et bonne continuation à vous pour les ateliers d'écriture et puis pour les romans, puisque je viens de comprendre qu'il y a un deuxième roman en préparation. Donc,
Oui, pour l'instant, bon, c'est embryonnaire, mais bon, j'espère qu'il sera publié un jour et je vous remercie pour m'avoir accueilli chaleureusement.
Et je vous en prie, ça a été un plaisir. Et donc, on prend date pour le prochain roman dès que vous l'aurez terminé. Merci beaucoup, Bernard Paillardet.
Merci à vous.
Merci à vous et bonne continuation à vous. Au revoir. On retrouve tout de suite Nicole pour sa chronique consacrée au mot minute aujourd'hui. Bonjour ma chère Nicole.
Bonjour Patricia.
Alors nous écoutons votre chronique consacrée aujourd'hui au mot minute.
Exactement. Donc c'est un nom féminin qui est emprunté au latin minuta, substantif du latin minutus qui signifie petit, menu. participe passé de minuere, qui signifie rendre plus petit, diminué, qui est lui-même dérivé de minus, comparatif de parvus, qui signifie petit. Minute, papillon. La minute est la 60e partie de l'heure qui sonne. Je te consacre et te donne des minutes exquises et précieuses, des minutes propices, favorables ou heureuses, des minutes étonnantes, frivoles ou délicieuses. La minute est unité d'angle et 60e partie du degré. Je passe et je perds des minutes, minute par minute. À la minute, j'attends et j'accorde une minute. Je suis là dans la minute pour un délai, une halte ou une partie de quelques minutes. La minute est la 12e partie du rayon d'un fût de colonne. Je n'en doute pas une minute. J'arrive dans la minute, d'une minute à l'autre. Orgueil et joie de la minute, je m'endors. Pour une réparatrice, sieste minute. La minute centésimale est le centigrade, minute de vérité. J'avance ou je retarde de quelques minutes. De minute en minute, mon cœur bat de multiples pulsations par minute. Je n'ai pas à perdre une minute, à la première minute, pour une chopinesque valse-minute. Et il y a le polar minute, ou comment devenir sans effort un écrivain connu et admiré, de Bernard Paillardet. À Londres, Alvin rêve d'écrire un roman. Il s'inscrit dans un atelier d'écriture, mais cet apprentissage lui paraît bien long. Il va alors utiliser un logiciel capable de générer automatiquement des romans policiers inventés par son ami Andrew. Le succès est immédiat, mais la machine va se gripper et les entraîner vers des confins inattendus que l'on laissera au lecteur le soin de découvrir. Les trois signifiants du titre, minute, connu et admiré, reflètent bien ce 21e siècle qui recherche facilité et célébrité. L'auteur a su en rendre la dérisoire importance, en même temps qu'il a su fracasser avec habileté le rêve, en le décalant avec humour, dans un Londres pittoresque et faire de ce roman un régal de justesse et d'ironie.
Oui, c'est tout à fait vrai, ma chère Nicole, parce que je l'ai précisé avec Bernard Paillardet, mon invité, il y a un instant. Le roman est vraiment plein d'humour et on ressort de cette histoire tout à fait conquis par cette histoire d'amitié, bien sûr, mais aussi par ce cauchemar que va devenir leur aventure, mais qui heureusement se termine bien. Alors avec vous, chaque semaine, Nicole, on découvre toutes les facettes d'un mot. Alors on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain mot, d'accord?
Avec plaisir, Patricia.
Un plaisir partagé. Merci Nicole, à la semaine prochaine. On va marquer une petite pause musicale et on se retrouve dans un instant avec mon invité suivant, Cédric Lesec, directeur des relations extérieures et de la diffusion du Musée des Confluences de Lyon. Et nous évoquerons avec lui la collection, Récits d'objets et le concours d'écriture lancé en partenariat avec les bibliothèques municipales de Lyon, de la Part-Dieu du 2e et du 4e arrondissement. A tout de suite alors, je compte sur vous. Oh, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Everybody like you. nous rejoignez, vous êtes toujours dans l'émission Entre vous et moi avec Patricia Drey. Vous le savez, chaque semaine, nous parlons littérature. Aujourd'hui, d'une façon un petit peu particulière, avec mon deuxième invité du jour, Cédric Lesec. Bonjour Cédric.
Bonjour Patricia.
Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. J'en profite d'ailleurs pour saluer et remercier Adélaïde Fabre de l'agence Etuti Quanti qui m'a informé de l'actualité du musée des Confluences. Je précise à nos auditeurs que vous êtes en charge des relations extérieures et de la diffusion du musée des Confluences. C'est bien cela, hein ?
C'est tout à fait ça.
Vous pouvez nous dire quelques mots sur votre mission au sein du musée, Cédric ?
Ben, c'est de piloter l'ensemble de ce qui fait les relations extérieures du musée, à savoir tout ce qui concerne la communication, la promotion du musée vers les publics, mais aussi vers les professionnels, les relations presse et public et les relations internationales, et donc les éditions.
Bien sûr. Alors, le musée des Confluences a été ouvert en 2014. Il propose à ses visiteurs de mieux comprendre l'histoire de l'humanité à travers différents projets, évidemment. On précise que le musée des Confluences, qu'on ne peut pas louper tant l'architecture est particulière, hein, se situe au 86 Quai Perrache, dans le 2e arrondissement de Lyon, et il attire de très nombreux visiteurs chaque année, hein.
Oui, et y compris dans cette période particulière, encore ce week-end, il y avait beaucoup de monde au musée. Alors beaucoup de monde, c'est moins qu'avant, mais c'est surtout dans des conditions sanitaires qui soient confortables, qui soient sécures pour l'ensemble des publics qu'on accueille. Mais oui, on continue à accueillir du public, évidemment, avec grand plaisir, et bientôt avec deux nouvelles expositions à la mi-octobre.
Ah, très bien. Donc, vous allez nous parler dans un instant, j'imagine. Justement, j'allais vous parler des conditions particulières en cette période de pandémie quasi planétaire. Le musée accueille toujours les visiteurs dans des conditions, bien sûr, de sécurité, selon un protocole tout à fait précis, hein.
Alors, qui est désormais bien rodé parce qu'on a été parmi les grands établissements de région à réouvrir au 2 juin dernier. Oui. C'est-à-dire avec chacun est masqué à partir de 11 ans, c'est les mesures les plus marquantes, évidemment, et puis c'est surtout des jauges réduites, c'est-à-dire un nombre de visiteurs qui est calculé en temps réel et qui nous permet de faire en sorte de fluidifier l'ensemble des parcours de visite, de sorte que les publics ne se rencontrent le moins possible, ou en tout cas de faire en sorte que chacun se sente à l'aise et tranquille dans sa visite.
Il faut tout de même préciser que le musée est très vaste et que donc les flux doivent être assez limités, j'imagine, chaque jour, hein.
C'est une grande chance d'exploiter un bâtiment de cette nature, avec cette architecture remarquable, c'est qu'il est fait pour être musée, donc pour accueillir des publics, et il a presque été très simple de tracer des parcours en juin pour, encore une fois, faire en sorte que les conditions sanitaires soient absolument respectées. C'est là l'essentiel.
Absolument. Est-ce qu'il faut réserver au préalable, via Internet, je suppose, ou est-ce qu'on peut venir comme ça ?
Absolument, on recommande la réservation. On peut aussi acheter son billet sur place, mais on recommande de manière à réserver un créneau, des créneaux de visite, et de manière à être le plus à l'aise possible, c'est tout l'essentiel. Et surtout, de prendre plaisir à parcourir le musée, même dans ces conditions particulières.
Bien sûr. Alors, je tenais à donner toutes ces précisions à nos auditeurs qui auraient envie de venir visiter ce magnifique musée des Confluences que je trouve absolument magnifique. Donc, on l'a dit, le musée propose à ses visiteurs de mieux comprendre l'histoire de l'humanité, et ce, à travers des expositions, des rencontres, des échanges très divers. Et c'est dans ce cadre que le musée édite, depuis son ouverture, donc en 2014, la collection Récits d'objets, dont vous êtes le créateur, si je ne m'abuse.
Oui, en tout cas, le co-directeur avec le créateur, ça c'est juste, et le co-directeur avec la directrice du musée des Confluences, Hélène Lafont-Couturier. Cette collection Récits d'objets, elle poursuit ou elle anticipe la visite, d'une certaine manière. On est au 10e volume de la collection aujourd'hui, puisque le 10e volume vient de sortir, c'est celui d'Ananda Devi, et qui s'appelle Fardeau. Et le principe, c'est finalement, quand j'ai eu l'idée de créer cette collection, l'idée c'était de de faire en sorte de confier à un écrivain ou à un auteur ou une auteure la possibilité qu'il s'approprie un objet des collections, comme tout à chacun pourrait le faire au courant de sa visite, et que cet objet résonne sous la plume, avec les mots de cet écrivain. Au départ, c'était un peu une gageure parce que tout simplement, assumer la fiction pour un musée qui produit de la science, qui véhicule de la science, ça n'a pas toujours été simple, à la fois d'abord de positionner cette collection auprès des libraires qui ont plutôt l'habitude de catalogues d'exposition, et puis aussi des collègues, parce que ici on raconte des histoires, mais on raconte des histoires scientifiques. On n'a pas nécessairement l'habitude d'histoires de fiction, parce qu'il faut le dire, ce sont de petites fictions de différentes formes, on va en parler.
Très bien. Alors, dans quelles conditions l'avez-vous imaginé et comment cette collection a-t-elle évolué au fil des années, puisqu'on l'a rappelé, elle date de la date de l'ouverture du musée, donc 2014 déjà, 6 ans déjà, 6 années ont passé. Comment a-t-elle évolué cette collection?
Alors, peut-être comment on l'a imaginé? Tout simplement dans la même générosité qu'on accueille les visiteurs. Au musée, le musée aujourd'hui, je crois, populaire pour ce désir qu'il a d'être proche de ses visiteurs et donc de ses lecteurs. Et que cette question de l'appropriation d'un patrimoine qui finalement est le nôtre en commun, il pouvait être au cœur d'une fiction et au cœur de ce qui fait aujourd'hui la signature, la particularité du musée, à savoir le récit. Parce qu'au fond, le récit, il peut être scientifique, il peut être littéraire, mais c'est d'abord des histoires qu'on raconte. Et donc, c'est de ce postulat qu'on est parti pour lancer des invitations à différents auteurs et à déployer, et je réponds à votre deuxième question ainsi, à déployer par différentes typologies de fiction, contes, des essais, de la poésie aussi, de l'autofiction, etc., pour toucher tous les lecteurs du musée, tous les visiteurs du musée. En fait, récit d'objet et la visite du musée, c'est le même projet. Mais sauf que c'est un petit bout de musée qu'on peut prendre chez soi et qu'on peut même expérimenter soi-même. On va en reparler avec les concours d'écriture.
Mais je pense que c'est le prolongement, ça s'inscrit tout à fait, me semble-t-il, dans le prolongement, comme vous le disiez, de la visite au musée. Alors, le prolongement ou peut-être l'anticipation de la visite au musée.
Oui, parce que d'abord, ça n'est ni un poche, c'est vraiment un livre.
Ces fictions,
elles sont éditées et diffusées dans toutes les librairies en France, et à la librairie, on peut les retrouver évidemment à la librairie du musée, et on peut rêver de l'objet qu'on aura choisi avant sa visite ou voir comment il a été, comment un auteur, une auteure se l'est approprié pour en faire la matière de son propre récit, en fait.
Absolument, comment il s'en est emparé. Alors, vous évoquiez les différents écrivains qui ont participé à ce beau projet, à cette création. On peut citer Philippe Fauré et Olivia Rosenthal dans les années passées.
Absolument, ça a été Philippe Fauré, ça a été le premier qui a répondu à notre appel. En plus, je me souviens de cette première rencontre. Le musée n'était pas encore ouvert, et en fait, c'est une carte blanche. C'est pas nous qui demandons à l'auteur, ça sera cet objet et pas un autre. Et en fait, ce qui est très amusant de constater, c'est que ils choisissent toujours un objet qui résonne avec leur propre histoire. Et au fond, ça renforce notre sentiment de se dire que finalement, la seule chose qui nous différencie d'une auteure, c'est que nous, ça n'est pas notre métier, mais que chacun est amené, est à même, en tout cas, de se raconter sa propre histoire. Et dans celui d'Ananda Devi, qui sort d'ailleurs tout juste aujourd'hui en librairie, donc Fardeau, elle le dit, c'est presque une, elle pose dans l'introduction de ce court récit, presque cette interrogation métaphysique qu'on peut avoir quand on parcourt les salles d'un musée, parce qu'on est amené à s'interroger sur la beauté, sur la question des origines, sur la question de ce qu'on va devenir après sa mort, etc. Donc finalement, ces auteurs, il y a eu Emmanuel Pagano, Régine de Tambel, d'autres encore, mais ils ont juste l'aptitude de de transformer ce qu'on peut ressentir sans nécessairement savoir le verbaliser. Voilà.
Toute la différence avec un auteur, effectivement, il y a un visiteur lambda. Précisément, Cédric Le Sec, moi qui ai le privilège et le bonheur de recevoir chaque semaine un auteur pour évoquer son ouvrage avec lui, je me demandais comment vous sélectionnez, entre guillemets, ces auteurs à qui vous proposez de participer à cette belle aventure.
Alors, d'abord, il y a des auteurs qui répondent à la commande et d'autres avec lesquels qui ne souhaitent pas procéder de cette manière. Il y a aussi, ça procède toujours d'une visite du musée. On veut les mettre dans les conditions d'un visiteur. Ce sont des visiteurs parmi d'autres. Et puis, on dialogue avec les auteurs. Pour voir quel serait l'objet qui serait susceptible de les intéresser. Je me rappelle la rencontre qu'avait eue Emmanuelle Pagano avec quelque chose qui était en plus un peu une exception. On l'avait fait venir dans les réserves, elle avait choisi un châle en soie de mer, c'est-à-dire dans une coquille qui est propre à la Méditerranée, et elle en avait fait un récit assez incroyable autour du tissage et de quelque chose, alors qu'elle était à ce moment-là pensionnaire à la Villa Médicis, qui rejoignait son projet littéraire, en fait. Donc, c'est très intéressant parce que de notre fenêtre, on voit la genèse du projet littéraire se mettre en place et comment il rebondit avec tout simplement les mots de l'auteur, les thèmes de l'auteur aussi.
Ah, mais je trouve que c'est une idée tout à fait originale et formidable, en tout cas qui suscite l'enthousiasme, et pas seulement des auteurs, bien sûr, des visiteurs du musée. Alors, pour cette rentrée 2020, vous nous proposez donc, on l'a évoqué tout à l'heure, le livre de Ananda Devi, Fardeau. On précise qu'il s'agit d'une romancière d'origine mauricienne et indienne à la fois, hein, si j'ai bien lu. C'est la rencontre de cet auteur avec que la momie d'une femme péruvienne.
C'est ça. L'interrogation, son récit et puis elle au milieu, je dirais, hein, quelque part. Elle en tant que femme mauricienne voit cette tisserande précolombienne dont on conserve une momie dans les collections du musée, et une femme caucasienne aussi. Donc c'est un récit de vie, en fait. Elle le présente comme ça, mais avec une grande pudeur et qui fait part de sa visite au musée aussi, de son expérience du musée.
Bien sûr. J'espère avoir l'occasion prochainement, puisque vous nous le disiez à l'instant que le livre sort aujourd'hui même, j'espère avoir l'occasion de proposer une interview à l'auteur de Fardeau, Ananda Devi. Oui, ce serait juste formidable. Et puis, la deuxième auteur invitée, auteur ou autrice, hein, vous choisirez le terme que vous préférez. Pour ma part, je préfère auteur. Voilà. La deuxième auteure, c'est donc Simonetta Greggio, qu'on ne présente plus, une romancière italienne. J'ai oublié de préciser que Ananda Devi vit dans le département de l'Ain, donc dans notre région. Elle vit à Ferney-Voltaire. C'est juste un petit détail, mais que je voulais souligner, peut-être pour expliquer aussi sa proximité avec le musée des Confluences.
Et donc, au musée.
Ah, très bien.
Les cafés littéraires qu'on organise. Un, c'est Simonetta Greggio le 12 novembre à 18h, et l'autre le 26 janvier 21 à 18h au musée.
Voilà. Et
pour les auditeurs, c'est vraiment quelque chose qui est une rencontre assez privilégiée, parce que c'est voir l'auteur, discuter avec lui, rentrer dans l'atelier de l'écrivain et le rencontrer aussi, voir.
Tout à fait. Au-delà du livre, au-delà de l'écriture, c'est ça qui est intéressant. Donc, je rappellerai bien volontiers dans cette émission les deux rendez-vous, donc du 12 novembre avec Simonetta Greggio et le 26 janvier avec Ananda Devi. Je voulais aussi vous demander, Cédric Le Sec, j'imagine que cette démarche tout à fait originale, hein, de cette collection Récits d'objets doit permettre aussi aux auteurs de nouer un lien tout à fait particulier avec le musée des Confluences, mais aussi avec les visiteurs. Hein. C'est un petit peu dans le prolongement de ce qu'on vient de se dire au sujet des cafés littéraires et des rencontres avec les auteurs.
Absolument. Et vous me posiez la question de savoir comment se déployait depuis sa création cette collection. Maintenant, ce qui nous enthousiasme, c'est que d'autres institutions s'en saisissent. Je pense notamment à la bibliothèque municipale où les visiteurs, mais aussi les lecteurs de la bibliothèque et de cette collection, et puis tous ceux qui voudront y participer, la bibliothèque municipale lance un grand concours d'écriture. Donc, chacun a jusqu'au 20 décembre minuit pour envoyer une courte fiction à partir d'un objet des collections. La règle est simple, hein, 5000 caractères, et on se lance dans l'écriture d'un objet qu'on aura choisi comme l'écrivain des récits. Et puis, c'est aussi des rapports privilégiés aussi avec d'autres institutions universitaires. Je pense à l'INSA, la grande école d'ingénieurs de Lyon, avec laquelle on travaille très étroitement sur cette collection. Pareil, on invite des étudiants à écrire sur cette collection.
Ah mais c'est formidable, donc une double collaboration avec les bibliothèques municipales et avec l'INSA également, une belle démarche qu'on ne peut que saluer. Les bibliothèques municipales, c'est celle de la Part-Dieu, bien sûr la grande bibliothèque municipale, et celle du 2e et du 4e arrondissement de Lyon, je crois.
Hein. C'est ça, 4e Croix-Rousse et 2e. Tout à fait.
10e arrondissement. Bah écoutez, je trouve vraiment cette initiative tout à fait remarquable et je tenais vraiment à vous recevoir aujourd'hui, Cédric Lesec, pour l'évoquer. Et donc, le défi est lancé à nos auditeurs. C'est amusant parce que le hasard a voulu, c'est ce que je disais en début d'émission, qu'aujourd'hui je vous reçoive et que je reçoive juste avant vous Bernard Paillardet, qui est un auteur lyonnais et qui a justement écrit un roman intitulé Polar Minute. Et le sous-titre, c'est « Comment devenir sans effort un auteur reconnu et admiré ». Et ça se passe donc dans le milieu des ateliers d'écriture. J'ai l'impression que c'est très à la mode. Tout le monde a envie d'écrire. Hein ?
Oui, et puis peut-être maintenant au musée des Confluences alors.
Et oui, bien sûr, absolument. Écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir présenté cette belle collection Récits d'objets. Donc, je le rappelle, au musée des Confluences. Nos auditeurs trouveront toutes les précisions sur le site de la radio et sur le site de cette émission Entre vous et moi. Je vous remercie infiniment et belle opération pour le musée des Confluences. Merci beaucoup, Cédric Lesec.
À bientôt.
À bientôt, merci. Et comme je vous le disais en début d'émission, pour terminer, je voulais, pour rester dans le droit fil de cette émission d'aujourd'hui, sur l'apprentissage, hein, c'est vraiment le maître mot de cette émission aujourd'hui, je voulais juste vous parler en quelques secondes, parce que je crois que le temps tourne, je voulais vous parler d'un livre paru aux éditions Les Arènes Jeunesse, un livre destiné donc à la jeunesse, vous l'aurez compris, un volume qui vient de sortir, en un seul volume, tous les gestes qu'un enfant va progressivement apprendre à faire tout seul. Et ce livre s'intitule tout simplement « Je sais le faire ». C'est donc 1000 gestes pour devenir autonome. Voilà, en cette période de rentrée scolaire un petit peu particulière avec la crise sanitaire que nous connaissons et que nous vivons tous, j'ai pensé que ça pouvait être intéressant d'aider les enfants à devenir de plus en plus autonomes. Donc, c'est un ouvrage qui s'adresse aux 4-12 ans et donc qui est illustré. Il y a des trucs et astuces, il y a vraiment toutes sortes de choses pour aider votre enfant à devenir autonome. Que ce soit à la maison, à l'école, dans la rue, sur son vélo, etc. Donc, Je sais le faire, c'est un ouvrage paru aux éditions Arène Jeunesse, signé Alain Laboile et illustré par Ifu Millot. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez eu plaisir à écouter nos invités, autant de plaisir que j'ai eu à les recevoir. Merci à vous pour votre fidélité et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. En attendant, bonne lecture à tous. Au revoir, à la semaine prochaine.